Bonjour à toutes et à tous. Une fois encore, nous voici autour de cette table du studio B de Radio Ndiki Luka pour un nouveau sujet Patara, le débat politique de la radio numéro 1 en Centrafrique. Dans un instant, nous allons parler du plan de sécurisation des élections du 27 décembre. À 2 semaines du lancement officiel de la campagne électorale sur tout le territoire, les Centrafricains s'inquiètent de plus en plus de l'insécurité persistante dans certaines régions du pays. Pour répondre à ces préoccupations et assurer la sécurité de tous, avant, pendant et après les prochains scrutins, la MINUSCA, Mission Onusienne en Centrafrique, avec le gouvernement, a annoncé un plan de sécurisation des élections qui va mobiliser les forces nationales de défense et de sécurité ainsi que celles de l'ONU dans un contexte sécuritaire préoccupant. Je vous poserai à vous, les auditeurs, et à vous, monsieur, sur ce plateau, quelques questions. Que prévoit ce plan militaire? Quand et comment va-t-il se mettre en place? Et quelles sont les régions privilégiées? En fonction de quels critères ont-elles été privilégiées pour répondre à toutes ces préoccupations, je reçois M. Ursule Aguingo Gringbo, conseiller en communication du Premier ministre. M. Gringbo, bonjour.
Bonjour, M. Ndidi.
M. Farita Eruka Chabaz, porte-parole du chemin de l'espérance de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdou Karim Mekaswa. Monsieur, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux étudiants de Galuka.
Monsieur Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, Mission Onusienne en Centrafrique. Monsieur Montero, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Et Maître Bruno Yassant Gbegba, avocat au barreau de Centrafrique, un des leaders de la société civile. Monsieur Gbegba, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Pour la police du débat, je suis Armand Nguindi et la technique est assurée par Serge Yadindi. Tout de suite, nous lançons le débat. Ouvrons ce débat avec vous, Vladimir Montero. Ce plan de sécurisation des prochaines élections est-il déjà en action ou en êtes-vous?
Merci beaucoup. Le plan est en action. Il est mis en œuvre depuis bien longtemps, mais peut-être que le conseiller en communication du Premier ministre pourrait en parler parce que c'est un plan du gouvernement centrafricain soutenu par la MINUSCA et qui a été signé entre le Premier ministre, le représentant spécial et le président de l'ANE. Avec votre permission, il pourra vous donner quelques informations d'abord et ensuite je pourrai compléter.
Oui, monsieur Aguingo.
Tout d'abord, en fait, je vous remercie de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'exprimer en fait sur vos ondes et je tenais à saisir ce moment pour, dans un premier temps, saluer la mémoire en fait du président du cadre de concertation qui on a eu l'annonce récente de son décès, monsieur Papenya. Donc je tenais dans un premier temps à ce qu'on puisse saluer la mémoire de cet artisan de la paix qui a beaucoup œuvré pour le processus électoral en cours actuellement. Donc c'était la première chose que je tenais à faire.
En tout cas, oui.
Par la suite, avant de parler du plan de sécurisation intégrée des élections, il serait pour moi important en fait qu'on puisse regarder un peu en arrière, voir ce qui a été fait depuis le début. Que nous disait-on il y a quelque temps? J'ai eu l'occasion d'être invité sur votre plateau et je me souviens, devant votre scepticisme, je vous disais que les élections allaient se tenir en temps et en heure, que le gouvernement faisait tout pour que les délais constitutionnels soient respectés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que les faits donnent, selon moi, raison au gouvernement, donnent raison en fait au Premier ministre qui, sous l'autorité du président de la République, a fait en sorte d'accorder un crédit en fait à la demande de l'ANE qui sollicitait un délai technique pour pouvoir finaliser le fichier électoral et pour nous permettre en fait d'aller vers des élections crédibles et démocratiques. Aujourd'hui, on le constate, toutes les étapes ont été franchies. Qu'est-ce qu'on voit? On parle aujourd'hui en fait de livraison du matériel, l'enrôlement a été fait, l'affichage en fait des listes a été fait dans le calme et je tiens à saluer la maturité des Centrafricains qui ont fait en sorte que ces opérations se déroulent dans ces conditions. Je pense que vous en tant que média vous y avez contribué et je tiens à saluer cet effort. Maintenant, parlons proprement dit du plan de sécurisation intégrée des élections.
Oui.
Il a été mis en place en fait pour permettre à tous les acteurs du processus électoral de pouvoir en fait faire campagne, que les choses se passent dans le calme, sachant que c'est un plan qui a 3 dimensions, c'est un plan qui est inclusif, c'est-à-dire il va faire en sorte que tous les Centrafricains sur l'ensemble du territoire puissent voter dans les mêmes conditions que les femmes, les hommes, les déplacés, puissent avoir l'occasion de s'exprimer en fait de façon tout à fait libre et démocratique. C'est un plan également qui sera évolutif, c'est-à-dire qu'il s'adaptera ici et là en fait aux différentes menaces. Et également, c'est un plan qui a été conjoint, comme l'a dit M. Montero. Il a été élaboré en fait par le gouvernement avec le soutien de la MINUSCA et avec également le soutien de l'ANE.
Merci beaucoup, mais vous avez parlé tout à l'heure du scepticisme de Radio Ndiki Luka ou bien des auditeurs, ou bien des Centrafricains. sur ce point.
En fait, encore une fois, je vous demande en fait de revenir en arrière. Je l'ai dit, j'étais invité chez vous. Il y avait beaucoup de scepticisme. On nous disait que les choses n'allaient pas se faire. Qu'est-ce qu'on n'entendait pas aujourd'hui? Je pense que ce serait la moindre des choses de reconnaître ce qui a été fait, de saluer le travail des agents de l'ANE et de voir aujourd'hui qu'on est à quelques jours de ces élections.
Vous allez nous donner beaucoup de détails dans ce débat. Vous appelez à la sécurisation, M. Chabaz, hein, des élections. Ne pensez-vous pas que ce plan de sécurisation est un point important pour que les élections de décembre soient crédibles, libres et transparentes? C'est l'une de vos préoccupations, de vos revendications.
Monsieur Armando, merci beaucoup de la question. Et comme monsieur le conseiller en communication du Premier ministre, je tiens vraiment à me tenir devant les dépouilles de notre ancien, le doyen Papinia. Oui, ce plan de sécurisation des élections, du processus électoral. Bon, moi je sais pas, mais quand quelqu'un est mort et puis qu'on appelle le médecin, je crois que c'est un peu inutile. Je veux dire qu'aujourd'hui, la question de sécurisation, c'est vrai, il y a la question militaire, mais il y a la question aussi technique, il y a la question logistique. Il me semble que parmi les agents ANE qui sont allés sur le terrain, nous avons eu des kidnappings, nous avons eu des gens qui sont morts, nous avons des gens qui ont été dépouillés. Donc le processus de sécurisation vient après cela. Quand on parle de sécurisation, on parle également de sécurisation du fichier électoral. Depuis toujours, la plateforme de l'opposition démocratique demande qu'un audit du fichier électoral ait pu être. C'est ça la sécurisation. C'est quand on sécurise la fiabilité, la viabilité du fichier électoral qu'on peut dire que effectivement on a fait un effort de sécurisation. Premièrement, je prends le cas par exemple du Burkina Faso où effectivement le pouvoir en place se sont entendus pour justement aller trouver un organe indépendant pour essayer maintenant d'évaluer le fichier électoral. On s'est rendu compte que plus de 1 425 000 personnes étaient en doublon dans le fichier électoral. Donc, vous avez vu qu'ils ont sécurisé. Et aujourd'hui, on voit que Rochma Kabore, qui est parti pour sa réélection, a été élu à plus de 57%. C'est parce que dès le départ, on a fait un travail d'apaisement. Et on parle de sécurisation, mais quand même, je suis assez effaré qu'un pays dont les trois quarts sont contrôlés par des groupes armés, on veut nous faire croire à nous, Centrafricains.
30 secondes.
Qu'on peut aujourd'hui aller de façon apaisée aux élections. Un exemple concret qui met à terre tous les discours qu'on peut tenir sur la sécurisation. Actuellement à Bambouti. Bambouti, c'est la RCA. À Bambouti, le maire de Bambouti est aujourd'hui kidnappé et les populations de Bambouti sont traquées entre des mercenaires de l'UPC et l'armée sud-soudanaise. Ça se passe en RCA. Donc, on nous parle de sécurisation, c'est bien, hein, les conceptualisations, mais la réalité est tout autre. Donc, il ne faudrait pas qu'on crée la diversion pour tromper les Centrafricains.
Nous allons revenir pour comprendre davantage, comme vous l'avez souligné, Maître Gbegba, vous, en tant que leader de la société civile, la sécurisation des élections prochaines tracées dans ce plan vous rassure?
Je vous remercie, monsieur le journaliste, oui, comme tous les autres. Et je m'incline devant la disparition de notre doyen, monsieur Louis Papinia. Je présente mes condoléances à sa famille. J'ai suivi vraiment le conseiller du Premier ministre. Comme ce n'est pas le débat, mais il a ouvert, je dois quand même ouvrir cette parenthèse. Il a dit que tout le monde était sceptique pour dire que les élections n'allaient pas se tenir, ainsi de suite. Mais effectivement, on était sceptique parce qu'on n'avait pas eu de bons signaux. Pour preuve, l'ANU était obligé de demander à l'Assemblée de réduire les délais constitutionnels. Donc ça veut dire qu'il y avait des préoccupations. On ne peut pas venir nous dire que non, bon, on ira aux élections. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure, il faudrait qu'on cesse de se moquer des gens qu'on continue de tuer. Est-ce que ces élections seront organisées dans un cimetière ou bien dans une ville où les gens vivent? On continue de nous tuer. Il a parlé de Bambouti. Bambouti est très loin là-bas. Je vous ai dit, est-ce que ce plan de sécurisation a-t-il neutralisé les bandits armés qui continuent de tuer impunément? On n'a pas fait ça. Alors donc, quand on nous dit que non, ce plan-là a été signé, le 27, on ira aux élections, mais les élections, la vie d'un peuple, les élections ne représentent que 2% dans la vie d'un peuple. Il faudrait que je reste en vie pour aller voter. Et après les élections, je dois encore rester en vie pour maintenant vaquer à mes occupations. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vaquent à leurs occupations normalement? Mais allez voir à Kagabandoro.
Et donc, vous continuez à vous inquiéter sur ce plan?
Mais nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets parce que les bandits armés continuent de circuler librement dans le pays.
Monsieur Vladimir Montero, sur quoi la MINUSCA va-t-elle se concentrer? A-t-elle une indépendance d'action dans ce sens?
Vous parlez d'indépendance alors qu'au tout début, j'ai parlé d'appui de la MINUSCA à ce plan gouvernemental. Je reviens un peu sur cette inquiétude que nous partageons puisqu'elle est compréhensible. Nous venons d'un pays où il y a eu une crise il n'y a pas très longtemps. Nous sommes dans un pays où un groupe armé, le 3R, avait empêché l'enrôlement dans le Nord-Ouest. Et nous n'avons pas nié ce fait.
À Bokaranga, à Kui, à Ngaoundaï, là où il
s'est dit. Mais il y a eu une réponse. Et cette réponse qui a mêlé une posture robuste, mais aussi le dialogue, a permis l'enrôlement. Et l'enrôlement a été complété. Vous savez, par rapport à 2015, il y a une différence. Aujourd'hui, on a les FACA, on a les FSI qui sont déployés sur le terrain. Il y a à peu près les 1000, juste un exemple, 1000 jeunes policiers qui ont été recrutés, qui ont été formés, qui vont être déployés dans le cadre de ces élections et à la fin revenir pour compléter leur formation. Donc il y a un effort qui est fait et vous savez, il y a eu depuis plus d'un an un travail qui est mené par les autorités, les FDS, les forces de défense et de sécurité, la MINUSCA, pour planifier, pour analyser les zones où il y a davantage de dangers. Il y a des zones, disons, vertes, c'est le terme utilisé en matière de sécurité, des zones vertes, des zones calmes, et des zones où il y a un danger potentiel. Peut-être dans le centre, dans certaines zones où l'UPC continue d'agir, dans le nord-ouest, mais il y a une réponse. Il y a une réponse de la MINUSCA, des autorités et des populations, parce que la sécurité, c'est aussi les populations. C'est dénoncer ces éléments de groupes armés qui continuent à les torturer. Je veux, au nom de la MINUSCA, rassurer, même si on ne peut pas avoir une sécurité à 100%, mais tout est fait. Tout est fait en termes de déploiement, tout est fait en termes de moyens. Les partenaires ont renforcé leur appui aux forces de défense et de sécurité. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on a quelques 2000 FACA dans les préfectures, quelques 2000 policiers et gendarmes, plus la MINUSCA à travers sa force et sa police.
Mais nous restons sur ce plan de sécurisation avec les inquiétudes du peuple centrafricain. À cet effet, nous allons écouter quelques centrafricains, les Banguissois, qui se sont prononcés sur cette question au micro de notre reporter Suzanne Claire Ndombiasamba.
Habituellement, en Centrafrique, les élections ne se déroulent pas comme il se doit. Dans certains bureaux des votes, il y a des représentants, des candidats qui exigent à ce qu'on vote leur candidat. En tant que centrafricaine, j'aimerais dire à ceux-là de gérer les choses comme il se doit.
La MINUSCA et le gouvernement m'inspirent pas d'abord confiance. Ils sont toujours en train de signer des conventions, des traités, des quoi, mais jamais ils ont réalisé.
Ce que j'attends de la MINUSCA et du gouvernement centrafricain, c'est de mettre en application ce plan qu'ils ont mis en place. Parfois, il y a la disparition des urnes.
Je ne peux que faire confiance aux autorités. Si le gouvernement s'est engagé avec la MINUSCA pour mettre en place une stratégie de sécurisation, j'ai foi que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces élections puissent se dérouler dans les très bonnes conditions.
Je tiens vraiment à encourager la MINUSCA et le gouvernement pour leur travail dans le pays. C'est l'élection dans tous les pays, même dans les provinces.
Sur le plan juridique, ça peut aider, mais sur le plan des faits, moi je pense qu'il faut y mettre des réserves. Parce que on était tous là en 2015, il y avait des circonscriptions électorales où les candidats, avec les éléments des groupes rebelles, qui menaçaient les gens pour dire si tu ne votes pas tel monsieur, tu ne vas pas sortir du bureau de vote, et les armes étaient pointées sur les gens pour pouvoir voter.
Le gouvernement doit faire de son mieux pour que l'application de ce plan-là soit vraiment réaliste. S'il ne respecte pas ce plan, vraiment, je crains que cette élection puisse dérouler dans des bonnes conditions. C'est important pour qu'il mette en application ce plan-là.
Voilà, vous êtes dans le débat Patara de Radio Ndekeluka sur le plan de sécurisation des élections présenté par le gouvernement soutenu par la MINUSCA. Maître Bigba, quel commentaire faites-vous des avis des Centrafricains sur ce sujet, à ce que vous venez d'écouter?
Mais je suis sérieusement conforté dans ma position parce qu'effectivement, vous voyez, les gens étaient perplexes. On ne cesse de signer. Est-ce que réellement, on avait besoin même de ce document, de ce plan de sécurisation? On n'en avait pas besoin. C'est vrai qu'il n'y a jamais de risque zéro, mais on n'en avait pas besoin. Il suffit seulement de sécuriser le pays et les élections se déroulent. Si ce plan de sécurisation a été signé, cela veut dire qu'au niveau du gouvernement et du MINUSCA, ils reconnaissent qu'ils ont de sérieuses failles en ce qui concerne la protection de la population. C'est pour cette raison qu'exceptionnellement, ils sont obligés de se mobiliser pour déployer les forces qui, certainement, sécuriseront une petite partie du déroulement de ce processus électoral. Parce que quel est le pays dans le monde où on fait la sécurisation du processus électoral? On doit seulement, c'est vrai, sécuriser les matériels, les consoles, les faire parvenir dans les lieux. Mais quand on dit qu'il faut sécuriser maintenant, ça dit que quelque part, depuis des années, où on ne cesse de crier, ni le gouvernement, ni la MINUSCA ne font rien. Et encore, vous voyez, les rebelles sont là. Ils narguent la population. Ils narguent la population et nos autorités. La population ne fait que se plaindre et on ne cesse de se plaindre. Il faudrait quand même qu'un jour, lorsqu'on s'assoit autour d'une même table, c'est pour dire, essayons de tirer les conséquences. Depuis, toujours, pourquoi la MINUSCA et le gouvernement n'ont pas fait la cartographie de la situation sécuritaire? Parce que, tout, comme l'a dit M. Montero, toutes les zones ne sont pas rouges. Alors, les zones qui sont vertes, on les abandonne.
Mais voilà, mais sur ce point, nous allons revenir pour comprendre quelles sont les zones de stratégie pour la sécurisation des élections. Combien d'hommes le gouvernement centrafricain mobilisera pour la protection de ces scrutins, M. Ursula Gengo?
Tout d'abord, M. Ndendi, il serait important pour moi de répondre en fait à l'interrogation en fait de mon débatteur, du débatteur ici. Rien qu'à entendre en fait son questionnement, ça prouve qu'il n'est pas aux responsabilités. Il suffit d'eux. Il n'y a qu'à Faucon. Les choses sont plus complexes que ça quand on est aux responsabilités. Et ça, c'est le privilège, en fait, du fait de ne pas connaître peut-être les dossiers, la situation concrète. On peut avancer des choses telles que celle-ci, dire il suffit d'eux. On a besoin d'une baguette magique pour faire que les choses changent. Or, les choses ne sont pas celles-ci. Ça, c'était le premier point. Le second, j'ai entendu les préoccupations, en fait, de nos compatriotes qui sont légitimes pour pouvoir aller voter dans des conditions de sécurité, et c'est ce que le gouvernement s'emploie à faire, c'est la priorité gouvernementale. Je tenais à répondre également à une autre préoccupation. Moi, mon but, c'est de faire confiance en fait aux institutions de notre pays. Je ne vais pas me comparer au Burkina, qui sais-je. Non, je pense qu'on est un peuple qui est mature. Je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de leçons spécifiques à recevoir. Il n'y a pas de modèle en fait que je vais chercher. Et dans des pays, en fait, la plus première démocratie du monde, les États-Unis, on peut voir que les élections, c'est toujours un moment qui peut créer des tensions. C'est des choses qui peuvent arriver. Je n'ai pas de complexe. Et je fais confiance en fait à nos institutions.
Oui, rapidement sur ma question de tout à l'heure.
Je pense que c'est important, monsieur Armando.
Oui,
vous pouvez admettre que je n'ai pas encore eu mon temps de parole et certainement.
Non, j'ai le chrono, mais je contrôle.
On va aller plus loin. Et deuxième question qui est importante, sachez que ces élections seront les plus fiables possibles. Pourquoi? La question des doublons, c'est important que les gens sachent s'il y aura des doublons, si elles seront crédibles ou pas. Les partenaires, en fait, avec le gouvernement, ont mis en place en fait un logiciel qui nous a permis aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait plus de doublons. Chose qui n'était pas le cas lors des récents scrutins. Ce sera concrètement les élections les plus fiables que la RCA n'a jamais connues. Et je ne peux pas me permettre de laisser qu'on puisse dire sur un plateau la question des doublons. Ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut un peu de responsabilité et il faut un peu de maturité aux différents acteurs du processus pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, ce qui est le souhait en fait de tous les acteurs du processus électoral.
Non seulement vous n'avez pas encore répondu à ma question tout à l'heure sur le nombre d'hommes que le gouvernement compte mobiliser pour sécuriser ce scrutin sur toute l'étendue du territoire, sur plus de 623 000 km², c'est quand même énorme.
Tout à fait. Le défi, il est conséquent, il est mesuré. Je vous l'ai dit au début, ce plan, il sera évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, en fait, il y aura 500 hommes, il y aura 200, il y en aura 300. Il va évoluer, en fait, selon les situations, selon les différentes zones. Il s'adaptera, en fait, aux différentes menaces. Moi, aujourd'hui, on me décrit une réalité, en fait, dans notre pays que je ne constate pas. La semaine passée, j'ai eu l'occasion d'aller à Boire. Je suis allé à Boire. J'ai circulé dans Boire. Je suis allé à Bambari. J'ai circulé dans Bambari. J'ai vu les populations qui étaient enthousiastes. Un calme relatif. Il y a deux jours, j'étais à Bossangoa, zone que nous... On entend beaucoup de critiques, en fait, sur ce qui se passe sur le terrain. J'y suis allé. Alors, sur le plateau, en fait, c'est vrai qu'il y a des difficultés. On ne peut pas les nier, mais on ne peut pas noircir le tableau et décrire une réalité qui n'existe pas.
Voilà, monsieur Vladimir Montero, sur ce point exactement, quelles sont les zones priorisées pour la sécurisation des élections à venir?
Écoutez, en termes de sécurité, on peut pas...
Vous avez parlé des zones vertes, zones rouges. Nous voudrions vraiment comprendre.
Ou des zones oranges. En termes de sécurité, on ne peut pas dire qu'on va envoyer tant d'hommes dans tel endroit, parce que l'effet surprise compte pour beaucoup en termes de sécurité. Mais que les populations sachent, elles connaissent ces zones. Il y a des zones où il se passe rien en termes d'insécurité. La sécurité sera assurée par les services locaux qui existent. Dans des zones où il y a une tendance à la violence, il y aura les FSI et les FACA. Et dans les zones extrêmes, on peut citer le Nord-Ouest, on peut citer un peu le centre, parce qu'il y a d'un côté le 3R et l'UPC qui ont été très actifs. Il y a également le Nord-Ouest. Et par rapport à tout cela, il y aura des réponses. J'ai parlé des FACA, des FSI, j'ai parlé des forces de la MINUSCA qui sont déjà présentes, mais nous avons cette capacité et on est préparé pour ça avec nos forces spéciales. Nous avons des forces spéciales qui peuvent être déployées en fonction de l'évolution sur le terrain. Nous avons eu la phase d'enrôlement, il y aura désormais plusieurs phases, la phase d'acheminement et sécurisation du matériel, la partie de la campagne qui est très importante, et ensuite le jour J. Par rapport à tout cela, il y a des réponses. Je voulais revenir sur les propos de Maître Biegba qui a utilisé le mot exceptionnellement. Et justement, on est devant une situation exceptionnelle. Et par rapport à cette situation, il y a cette réponse, et une partie des auditeurs donne raison au gouvernement et à la MINUSCA quant à l'adoption de ce plan intégré de sécurisation. Le pays n'est pas sur toute l'étendue, c'est un constat, c'est une réalité, et par rapport à ça, parce qu'il y a une responsabilité du gouvernement pour protéger ses citoyens, et nous, la MINUSCA, pour y contribuer, d'apporter une réponse. Monsieur Chabaz a cité tout à l'heure l'exemple du Burkina Faso, vous avez également entendu que pour des raisons de sécurité, des gens n'ont pas voté. Nous voulons éviter cela.
Monsieur Chabaz, sur ce plan de sécurisation des élections, nous savons que sur le terrain, le rapport de force n'est pas le même. Du côté des groupes armés, par exemple au nord-est et au sud-est de la République centrafricaine, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces élections dans ces zones plus peuplées soient mieux sécurisées que les autres?
Merci beaucoup, monsieur Armando. Je pense que avant même de pouvoir parler de sécurisation, il faudrait éviter déjà de mettre de l'huile sur le feu. La situation est déjà extrême. Nous avons demandé au niveau de la position démocratique pour que cette élection puisse être crédible, puisse être en tout cas transparente, démocratique, etc. Il fallait que tous les Centrafricains puissent voter. Vous voyez bien que la situation des réfugiés, plus de 300 000 personnes qui sont aujourd'hui empêchées de voter, ça va en tout cas impacter sur la crédibilité de cette élection. 300 000 personnes, c'est plus de 10% des électeurs. Comme on l'a dit, si effectivement aujourd'hui, le 2 octobre, on a été obligé de signer un plan de sécurisation du processus électoral, ça veut dire qu'il y a un échec. Il y a un échec de quoi? Un échec de l'accord de Khartoum. Et là, j'impute cet échec totalement au gouvernement. Parce que le gouvernement nous avait vendu un rêve en disant que le 6 février 2019, c'est fini, on a la sécurité, ça sera terminé. Au bout de 3 mois, on va désarmer, les mercenaires vont rentrer chez eux. Là, on est proche des 2 ans de l'accord de Khartoum. Et donc, si aujourd'hui, on est obligé de faire le plan de sécurisation, ça veut dire qu'on reconnaît implicitement que cet accord de Khartoum est un échec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a menti au peuple centrafricain. Et entre un gouvernement qui passe son temps à mentir au peuple centrafricain et la MINUSCA qui n'a pas les moyens de sa politique. Parce que, comme on l'avait dit, c'est 623 000 km², et même si la MINUSCA employait ses 10 000, 15 000, 20 000 soldats de la paix, ils seraient incapables de pouvoir sécuriser le pays. Et donc, je pense qu'il fallait faire un travail en amont. Là, aujourd'hui, on va essayer d'éteindre le feu avec une cuillère. C'est ça le problème. Et nous, nous ne voulons pas ça, parce que les Centrafricains ont trop souffert. Et je vous le dis, si nous continuons à aller dans cette voie-là, on va se cracher contre un mur. Monsieur le représentant spécial de la MINUSCA, du secrétaire général des Nations Unies, monsieur Mokhtar Ndiaye, quelques temps avant justement la signature de ce plan de sécurisation, nous a dit quoi au niveau du Conseil de sécurité? Il nous a dit qu'au-delà même de la question de la sécurité, il y a aussi un problème par rapport au financement. Il manque 4 millions de dollars, à savoir 2 milliards hein, pour pouvoir clôturer, boucler cette élection. Et pour 2021, il manque 17,7 millions de dollars, ça veut dire à peu près 9 milliards. Donc vous voyez que déjà, nous avons des déficits au niveau financier, nous avons des déficits au niveau logistique, nous avons une situation explosive au niveau sécuritaire. Il ne faut pas mentir aux Centrafricains. Il ne faut pas mentir aux Centrafricains. Ici, le studio B n'est pas très loin du stade de l'Omnisport. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, on a failli vivre un embrasement en plein Bangui, avec justement cette friction qui s'est passée entre les sécurités du ancien chef d'État Bozizé et le directeur de la sécurité présidentielle, monsieur le général Alfred Servais. Donc vous voyez bien que en termes de sécurité, il faut pas mentir aux gens. Et moi, je suis quand même assez effaré que monsieur Gringo, qui vient ici en tant que chargé de communication, on lui pose des questions pour qu'il donne des réponses claires par rapport aux mécanismes mis en place. On n'arrive pas à comprendre ce qui est mis en place parce que on tourne autour du pot.
Voilà, sur le plan de sécurisation des élections en République centrafricaine, et d'ici le 27 décembre prochain. La plateforme des confessions religieuses en Centrafrique s'inquiète aussi de cette situation. Cardinal Dieudonné Zapalainga demande à la communauté internationale et au gouvernement de prendre les responsabilités face aux groupes armés afin d'assurer la sécurité de tous. Nous l'écoutons.
J'avais exprimé cette inquiétude à un moment donné en disant comment quelqu'un pourra-t-il arriver dans une région, dans une localité où il voit des hommes en armes qui ne sont pas pour lui. Est-ce qu'il pourra battre campagne, pourra présenter un projet de société? C'est une question réelle, parce que les populations ont besoin d'être conscientisées, éclairées, pour pouvoir voter en connaissance de cause. Mais avec les armes qui circulent partout dans ces régions-là, comment allons-nous faire? Ça veut dire peut-être ceux qui auront des moyens pour soudoyer les rebelles qui risquent de voter. C'est pas possible. On doit laisser la possibilité à tout le monde librement circuler pour pouvoir véhiculer son message et toucher les cœurs des Centrafricains pour qu'ils puissent décider. Et je crois que c'est une grande interpellation. Et la communauté internationale qui soutient le processus a un grand travail à faire pour que ceux qui ont des armes déposent ces armes-là, pour laisser les politiciens parler, pour laisser ceux qui veulent plus tard être députés aussi présenter leur projet de société. Donc j'en appelle et à la communauté nationale et au gouvernement de prendre une disposition, puisque nous y allons vers les élections, pour que tous les candidats puissent avoir la même chance. Ça sera dommage de voir qu'un groupe puisse passer, présenter son projet de société et l'autre ne pouvant pas parce qu'on l'a empêché. Non, on va fausser et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que l'équité soit au cœur de cet exercice démocratique.
Et c'était donc Cardinal Dieudonné Zapalainga dans l'émission Patara de cette semaine. Maître Bigba, je rappelle que vous êtes un des leaders de la société civile centrafricaine. Quelques commentaires rapidement sur le propos de Cardinal avant qu'on puisse évoluer.
Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà revenir sur deux mots prononcés par le conseiller en parlant de la maturité et de la responsabilité. Nous sommes suffisamment mûrs lorsque nous posons des problèmes. Et c'est parce qu'ils sont ils ont la gouverne du pays que nous les interpellons pour leur demander de faire leur travail. S'ils ne peuvent pas faire le travail, ils démissionnent. Parce que nous demandons à être protégés. Et s'ils ne nous ont pas protégés, nous allons toujours interpeller. Donc on ne peut pas nous dire que lorsque nous interpellons, nous sommes immatures, nous ne sommes pas irresponsables. Non. Il ne faudrait pas qu'on puisse arriver à ces genres d'écart. Parce que je ne saurais tolérer qu'on puisse dire que je ne suis pas mature, je ne suis pas responsable. Ça, ce n'est pas normal. Deuxièmement, lorsque nous interpellons le gouvernement, c'est parce qu'effectivement, nous avions des préoccupations. Chaque fois que nous disons que Bangui, ce n'est pas la RCA, Bambari, ce n'est pas la Waka. Lui-même, il a dit qu'il y a eu un calme relatif. Lorsqu'il dit qu'il y a un calme relatif, ça veut dire qu'à Bambari, il n'y a pas assez de sécurité. Et tout le monde sait que lorsqu'on prend les armes, il faut les arracher par la force. Et nous ne demandons pas au gouvernement de s'apitoyer constamment devant les rebelles. L'État est une force et l'État doit s'imposer. Mais chaque fois, le gouvernement et la MINUSCA s'associent. Mais lorsqu'ils se sont associés, ils s'associent pour quoi? Pour faire quoi? Et qu'est-ce que nous devons attendre de cette association? Nous attendons un résultat. Est-ce que le gouvernement et la MINUSCA peuvent nous dire à ce moment-là, quels sont les résultats que nous avions eus en ce qui concerne la sécurisation de la population? Parce qu'après les élections, on va nous oublier, on va nous laisser entre les mains des rebelles qui vont nous tuer. Et en 2025, on va encore concocter un autre plan de sécurisation rien que pour les élections. C'est comme si la RCA ne vit et les Centrafricains ne peuvent exister que par rapport aux élections. C'est pas ce que nous demandons. Moi, j'ai dit, il faut s'occuper de la population chaque jour. Élections... Oui. C'est pas, on ne néglige pas les élections. Mais moi, je dis qu'on doit s'occuper de la vie et de la sécurité de la population centrafricaine chaque jour, au lieu d'attendre chaque 5 ans pour mettre en place des plans de sécurisation.
Voilà, monsieur Ursule Aguingo, quand on évoque les menaces, parle-t-on uniquement des groupes armés? Si les groupes armés sont sous contrôle, est-ce que cela veut dire que le citoyen pourra voter librement lors des scrutins à venir?
C'est le souhait. Moi, j'ai entendu le cardinal s'exprimer. Je pense qu'il parle exactement de des objectifs de ce plan de sécurisation des élections. Maintenant, je ne peux pas laisser dire des choses comme je l'ai entendu sur votre plateau sur la PPRRCA, en fait. Je ne sais pas si mon débatteur a eu l'occasion de se déplacer dans le pays. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas nous dire que la situation sécuritaire du pays est la même qu'en 2015, est la même qu'avant la signature de ces accords, des accords de paix, en fait. Je ne sais pas s'il a l'occasion de se déplacer. Moi, je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'aujourd'hui, en fait, les forces de défense et de sécurité sont à l'intérieur du pays, sont déployées dans notre pays, en fait, pour nous permettre d'apporter progressivement la paix aux Centrafricains. J'entends quoi? J'entends, on me parle du vote des réfugiés. Moi, je déplore que des Centrafricains n'aient pas la possibilité d'exprimer leur vote, leur choix démocratique, qui n'ont pas cette possibilité. Maintenant, il faut savoir une chose. Je pense que mon débatteur, en fait, appartient à un parti ou à un mouvement, en fait, dont le responsable était président de l'Assemblée nationale, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils mis en place ou proposé un projet de loi pour permettre, en fait, aux déplacés, aux réfugiés de pouvoir voter? Ils ont eu l'occasion de le faire, ça n'a pas été fait. Moi, je trouve que c'est quand même déplorable que cette question puisse être instrumentalisée aujourd'hui. S'il vous plaît, M. Armando, moi, il faut le savoir. Je pense que les auditeurs doivent le savoir. Qu'un réfugié, compte tenu de la Convention de Genève, ne vote pas dans aucun pays du monde. Ça ne se fait. Alors pourquoi vous
voulez que ça se passe? Non, sur cette question, je crois que nous avons tourné page, mais nous revenons sur le plan de sécurisation des élections avec une question précise sur le terrain. Est-ce que le citoyen centrafricain aujourd'hui aura la chance d'aller voter librement et que ce vote aura de l'impact sur sa vie de demain ou sur son avenir?
L'exemple le plus concret, je vais vous le donner. Cette semaine, le gouvernement, en fait, vous avez entendu parler du problème, en fait, des agents tablettes qui réclamaient, en fait, leur arriéré de paiement. Le gouvernement a décaissé, en fait, une somme $1,400,000 pour que ça puisse être, ce problème puisse être solutionné. Ça marque quoi, selon moi? Selon moi, ça marque la volonté du gouvernement de faire en sorte que les élections se passent dans de bonnes conditions, dans un climat apaisé, et de solutionner les problèmes quand ils se présentent. Pour moi, ça marque cela, monsieur Yann Dédi.
Voilà, Shabazz, vous voulez répondre rapidement, vous voulez réagir sur ce propos, mais quelques minutes comme ça, on évolue.
Oui, rapidement.
Vous avez une minute.
Oui, parce qu'on parle de sécurisation, je pense que vous avez tous suivi dernièrement que la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à l'invalidation de certaines candidatures, vous savez qu'il y avait un grand nombre de groupes armés qui sont candidats. Ces groupes armés qui sont maintenant fâchés, parce que moi, comme le sait pas notre frère, moi je suis un homme politique et nous nous déplaçons sans sécurité. Lui, il se déplace où il veut avec des sécurités, les FACA, la MINUSCA, tout ça. Nous, on se déplace sans sécurité et c'est difficile pour nous de se déplacer. Donc déjà un. Et voilà. Et je prends l'exemple du parti politique du CRPS qui sont allés faire campagne et qui sont fait arrêter par un groupe armé. Ils ont fait voler leur véhicule. Le secrétaire général
du parti politique de Maître Nicolas Tchangaï.
Exactement. Le parti politique de Maître Crépin Bolingomba, où ils ont vu leur secrétaire général qui a été assassiné parce qu'il voulait faire campagne. Et quand vous voyez ces personnes-là, pourquoi ils ont fait assassiner? Parce que ces personnes-là voulaient aller en candidature face à des groupes armés. Ces groupes armés maintenant ont été invalidés. Quelles seront leurs réactions? Est-ce qu'ils vont laisser faire? Déjà, quand ils pensaient aller aux élections, ils étaient prêts à nous traquer, à nous tuer. Mais maintenant qu'on les a invalidés, vous pensez que ces gens-là vont rester comme ça? Non. Non, sincèrement, je pense que notre frère Grégomo, je pense qu'on n'est pas ici pour échanger les mots d'oiseaux. Je pense qu'en termes de maturité politique ici, c'est celui qui est notre cadet, donc il faut qu'il reste calme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la sécurité des Centrafricains. Et cette sécurité, elle n'est pas sûre. Il faut dire la vérité. C'est pas parce que il faut jeter l'opprobre sur tel ou tel, mais nous avons besoin de sécurité pour aller dans ces élections. Si demain, le chef de l'État, monsieur Touadéra, gagne, on dit merci, Inch'Allah, parce qu'il a gagné dans les conditions où la sécurité est là, où c'était fiable. Mais on ne veut pas pousser les Centrafricains encore dans un second feu. C'est ça que nous rejetons.
Oui, je tourne vers vous, monsieur Vladimir Montero, sur le rôle assigné aux forces sur le terrain. Que peut-on dire exactement?
La première chose que je voulais dire, c'est que ce PIS, ce plan intégré de sécurisation des élections, ne signifie pas l'échec de la PPR. Ce PIS, ce plan, a été adopté pour une situation exceptionnelle pour sécuriser les citoyens, particulièrement les femmes, qui iront voter. Ils ont été, ces hommes et femmes, sécurisés lors de l'enrôlement. Ils devront être sécurisés pendant le processus électoral pour sécuriser également ceux qui vont se déplacer. Vous avez fait votre analyse, mais c'est aussi l'analyse que les experts en matière de défense des FACA, des FSI, de la force et de la police, de la MINUSCA font. C'est-à-dire, vous avez des craintes quant à la réaction de ces groupes armés parce que leur candidature a été invalidée. D'un plan de vue sécuritaire, tous ces scénarios ont été revus, et par rapport à chaque scénario, il est prévu une réponse. Il est prévu une réponse à travers le dialogue, parce qu'on a encore le temps de dire aux gens, écoutez, il faudra respecter le candidat qui est sur le terrain qui fait campagne, il faudra respecter l'électeur qui va voter. Et si jamais il y a des menaces, eh bien, CFAK, CFSI, avec le soutien de la police et de la MINUSCA, agiront. Ça, il n'y a pas de problème. Autre chose pour vous rassurer, la représentante spéciale, aujourd'hui, dans une interview sur notre radio, je ne vais pas faire la publicité, a indiqué que ce déficit de 4 millions n'empêchera pas la tenue des élections. Il y aura toujours ce plaidoyer pour que les partenaires comblent le déficit, mais ces 4 milliards ne manqueront pas. Il y a un engagement, surtout un engagement, comme l'a demandé le cardinal de la communauté internationale, pour sécuriser. Tout dernier point, on ne peut pas arracher les armes par la force. Et c'est à travers le dialogue. On ne va pas revenir sur le DDR, mais juste pour vous dire que des groupes qui ont signé la PPR ont publié des communiqués. Je ne vais pas citer ce groupe, c'est un groupe très important qui a dit « Nous n'allons pas nous opposer au processus électoral ». Ça veut dire qu'il y a chez certains cette volonté d'aller de l'avant. Chez les autres, eh bien, ils auront la réponse.
Oui, monsieur Vladimir Montero, et sur cette question, est-ce que l'une des missions de la MINUSCA, c'est d'assurer exactement le vote aux Centrafricains?
Écoutez, la sécurité de ces élections, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement. Mm-hmm. Nous, on apporte nos moyens techniques, logistiques, en armes pour faire cela. Et cette sécurisation ne se limitera pas, Maître Biegba, à cette période exceptionnelle que sont les élections. Elle a été mise en œuvre avant, avec des progrès, quelques échecs, mais beaucoup d'avancées. Et elle va se poursuivre comme c'est prévu dans notre mandat.
Voilà, je nous invite à écouter Firmin Gribada, Premier ministre. Il a estimé que ce plan est de garantir le bon déroulement des élections groupées. Suivant.
Il s'agit d'un document qui contient un certain nombre de mesures à prendre devant garantir donc la sécurité des opérations électorales. Le plan intégré des élections comprend donc les menaces, hein, c'est une identification des menaces qui peuvent survenir, donc de nature à perturber la bonne préparation et le bon déroulement des élections. Ça traite de la question de la coordination, donc tout le dispositif qu'il faut mettre en place, les moyens qu'il faut engager, donc afin de garantir le bon déroulement donc du processus électoral. Ce qu'il faut dire ici, c'est que ce document que nous venons de signer aujourd'hui, en fait, a commencé à être mis en application. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'obtenir pratiquement 97% d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire. Donc, il ne nous reste qu'un reliquat de 3% donc, à couvrir dans quelques parties du pays. Donc, c'est un document qui est très, très, très important et donc qui nous permet aujourd'hui, avec l'appui donc, des Nations Unies, notamment la MINUSCA, d'assurer donc, la sécurité des opérations électorales. Et je précise que cette sécurité concerne non seulement les agents de l'Autorité nationale des élections qui vont sur le terrain, mais également, ça va s'étendre donc à la protection des candidats des élections, aux élections législatives et présidentielles.
Voilà, c'était le Premier ministre Firmin Gribada. Nous savons que certains groupes armés sont actifs dans certaines régions du pays. Monsieur Chabas, pensez-vous que ce plan de sécurisation va réduire le risque ou des éventuels incidents sur le terrain lors des élections?
Monsieur Yangedimi, je me souviens que, et je pense que vous-même vous en souvenez, qu'on avait lancé un slogan, Bambari, ville sans armes. On y a cru. On a tous cru qu'effectivement Bambari allait être une ville sans armes. On a vu le résultat. Je ne mets pas en doute la sincérité, la bonne foi de la MINUSCA. Le gouvernement, ça c'est clair, j'y crois pas, ce sont des menteurs. Mais en tout cas, la réalité du terrain nous a montré que les bonnes intentions ne suffisent pas justement à sécuriser le pays. On nous a vendu la PPR, on a vu que c'est aujourd'hui tombé en désuétude. Le chef du gouvernement vient de nous dire qu'effectivement, le PIS, donc le plan de sécurisation intégrée, a déjà été mis en application. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période opératoire, opérationnelle. Il se trouve que actuellement, au moment où on parle, à Bambouti, les gens sont dans la brousse parce qu'ils se font pourchasser par des groupes armés. Donc ça veut dire que nous avons un passif. Aujourd'hui, moi je veux bien tout entendre, mais le passif est là. Quand par jour on vous dit on va vous ramener la sécurité depuis 3-4 ans et que jamais la sécurité revient, pourquoi aujourd'hui, le 28 novembre 2020, à quelques semaines des élections, on va subitement croire ou bien donner un quitus à ces autorités-là? Donc non, ça ne ramènera pas la sécurité. Non, nous pensons que les conditions ne sont pas requises. La CEAC vient aujourd'hui de donner ses conclusions en disant que ce que l'on devrait privilégier, c'est qu'on aille à une concertation des forces de vie de la nation, parce que vous vous rendez compte que systématiquement, les forces de vie de la nation sont exclues de tout
programme. Vous parlez
programme.
De la concertation avant les élections du 27 décembre, c'est
évidemment,
ça ?
Évidemment.
Mais est-ce qu'on aura le temps pour ça ?
Mais la question, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est plus important ? Le temps ou la vie des Centrafricains ? Moi, ce qui m'importe en plus, c'est les Centrafricains. Si on va au vote, c'est pourquoi ? On va au vote pour pouvoir choisir un président de la République, des députés qui vont changer notre vie, pour qu'on vive dans les bonnes conditions. Mais si le plus important, c'est d'aller à l'élection, parce que l'élection est plus importante que la vie des Centrafricains, je pense que là, on est en train de complètement basculer. Moi, je pense que ce qui est important, et ça, c'est l'article numéro 1 de notre Constitution, la vie centrafricaine, la vie humaine est sacrée. Donc, nous devons prendre toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser la vie des Centrafricains. Si nous nous rendons compte que nous n'avons pas les moyens de sécuriser, mettons-nous autour d'une table, réfléchissons, trouvons une solution. Maintenant, je vais répondre rapidement.
Oui, quelques secondes, parce que vous avez pesé votre temps. Oui,
quelques secondes. Moi, je n'ai pas été convaincu par les arguments du porte-parole de la MINUSCA par rapport au gap d'argent qui manque. Je ne suis pas convaincu par rapport à ce qu'il a dit. Et pour répondre à notre frère Gringo, bon, mais c'est vrai que le gouvernement a sorti 1 400 000 $, mais il manque encore 3 600 000.
Voilà, vous avez évoqué la question de la vie des Centrafricains lors de ces scrutins. Je crois, monsieur Gringo, c'est ce que le Premier ministre a rassuré le peuple centrafricain sur cette question. Ça veut dire que ça a répondu exactement à toute cette discussion dont nous avons eu au début de ce débat.
Moi, déjà, dans un premier temps, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire le chef de gouvernement. Maintenant, moi, j'entends, on parle encore de concertation aujourd'hui. On parle de concertation. Je veux rappeler, en fait, c'est important que les auditeurs puissent le savoir. La concertation, elle est au cœur de l'action politique du président de la République. La concertation, on la voit tout le temps. Moi, dans le cadre du comité stratégique d'appui au procès électoral, on voit les différents acteurs qui s'expriment, ils apportent leurs différentes solutions, ils proposent des choses. La concertation, on la voit tout le temps. Je ne vois pas de quoi mon débatteur parle. Aujourd'hui, la question financière, moi, je tiens à le rassurer. C'est une question, en fait, j'ai l'occasion de participer aux différentes réunions, en fait, techniques qui parlent traitent de ces questions, et ces questions sont évoquées, les différentes solutions sont proposées. Je lui demanderai une chose, je le demanderai à tous les différents acteurs du processus, de ne pas jouer aux apôtres du pire. Je pense que c'est vraiment important. Le plan de sécurisation, maintenant, s'il ne l'a pas, je pense qu'apparemment il ne l'a pas lu, moi je l'ai, en sortant de cette réunion, je vais le lui donner. Ça lui permettra, en fait, de s'imprégner, en fait, des différentes dimensions, en fait, de ce plan, qui ne traite pas que de la question sécuritaire ou militaire. C'est un plan qui a pour objectif de sécuriser le processus avant, pendant et après, qui a pour objectif, en fait, de sécuriser les institutions, qui protégera les différents agents. Moi, je nie pas, en fait, des problèmes qui ont pu exister encore ici ou là, en fait, mais au bout du compte, c'est marginal. Il faut le reconnaître, en fait.
Oui, quelques minutes, monsieur Maître Gbigba. Est-ce qu'en écoutant le Premier ministre, il a quand même répondu à vos préoccupations ?
Mais mes préoccupations auront des réponses après le 27 décembre. C'est-à-dire lorsque les élections se seront déjà tenues. Bon, maintenant, on verra. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je vous ai dit, je me redis que je suis dans l'insécurité. Et comme, par hasard, ils ont dit qu'ils sont en train de vouloir sécuriser. Parce que lorsque j'ai parlé du fait qu'il faut désarmer de force, M. Montero me dit non, on est dans le truc de DDR. Et il me parle encore de réponse. Mais quand les gens se comportent mal, vous leur donnez quelle réponse ? Une réponse légale de la force. Parce que, comme on le dit, l'État doit avoir le monopole de la force. Et c'est ça ce que nous demandons. Mais si, d'une part, on nous dit que non, on ne parle pas de DDR, on ne peut pas désarmer de force. D'autre part, il faut donner une réponse. Je me dis, quelle est cette réponse qu'on va donner, si ce n'est que d'utiliser la force pour ramener, et c'est ce que nous ne cessons de demander. Mais nous disons qu'avant d'arriver à la signature de ce PIS, on aurait pu nous faire ce qu'on appelle l'état des lieux de la situation sécuritaire. Et maintenant, après l'état des lieux de cette situation sécuritaire, parce qu'il appartient au gouvernement, la MINUSCA, les gens se sont exprimés, laissez-moi le temps de m'exprimer. Non,
allez-y, vous avez encore quelques secondes.
Quand la situation se dégradait, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ? Et lorsque, d'une part, on nous sort rapidement l'accord de Khartoum, moi j'ai une autre appréciation de cet accord de Khartoum.
Parce que moi, j'ai dit que le gouvernement a tout donné aux rebelles, mais les rebelles n'ont pas rendu la monnaie. Et le gouvernement continue toujours de leur donner. Comment on peut accepter que des rebelles viennent s'installer dans un pays constitué des groupes et on continue de négocier avec eux?
Voilà, merci beaucoup Maître Gbegba. Sur ce point, on tend vers la fin de ce débat politique sur Radio Ndekeluka. Mais avant cela, Monsieur Vladimir Montero, quelle différence faites-vous entre le plan de sécurisation des élections de 2015 et celui d'aujourd'hui?
Écoutez, comme je l'ai dit au début, en 2015, il n'y avait pas les FACA, il n'y avait pas les FSI sur le terrain. Au moment où on débat ici, des FACA sont arrivés à Birao. Des FSI sont arrivés à Ndélé et à Obo. Obo qui n'est pas très loin de Bambouti. Ça veut dire qu'en plus de discussions techniques, il y a quelque chose qui se fait sur le terrain. Et ce déploiement va se poursuivre. Il va se poursuivre parce que dans quelques jours, on va envoyer le matériel, la campagne électorale va commencer et on agira encore une fois de deux manières. Le dialogue, la pression sur les groupes armés et la force. C'est ce qu'on a fait par rapport aux 3R quand ils empêchaient l'enrôlement. Il a fallu l'opération à la Londo avec les FACA et la MINUSCA pour faire avancer les choses. Nous continuerons sur ce front et nous voulons rassurer les Centrafricains de l'engagement du gouvernement, de l'appui de la MINUSCA et de tous. Mais un tout dernier point, la sécurité, c'est pas que les groupes armés. Nous avons les discours d'Ayane en ce moment et ça peut dégénérer. Et c'est pour ça que je dis la sécurité, c'est tout le monde. Il faudra que la population dise non à ces campagnes menées par des candidats ou des hommes politiques pour les opposer. Ça aussi, c'est aussi grave que la menace des groupes armés.
Mais parlons de la sécurisation des candidats sur le terrain. Est-ce que la MINUSCA compte accompagner sur le plan sécuritaire avec vos forces de l'ordre aux côtés des candidats sur le terrain?
Il y aura les FACA, il y aura les FSI et la MINUSCA. Et comme je l'ai dit, elle est en backup, elle est là en soutien. Et une analyse a été faite. Une analyse a été faite. Par exemple, si un candidat va dans une zone verte où il n'y a pas d'insécurité, la protection sera minime. Mais dans des zones difficiles, évidemment, la responsabilité du gouvernement avec l'appui de la MINUSCA est engagée. Et c'est cet engagement que nous avons tous pris.
Monsieur Gringo Agingo, sur cette même question, est-ce que vous comptez sur ce plan de sécurisation accompagner les candidats jusqu'à là où ils vont battre campagne? Par exemple, je parle de Kui, je parle d'une délai de Birao, là où sévissent encore les grosses armées.
C'est ce qui est prévu, monsieur Arendi. Maintenant, il faut le rappeler à vos auditeurs que ce plan, il est déjà opérationnel depuis le mois d'avril. C'est ce plan qui a permis l'enrôlement, en fait, de la totalité de la population. C'est ce plan qui a permis de faire en sorte que plus de... Pour moi, c'est une réussite. Ce plan a permis... faire en sorte que plus de 50%, quasiment presque 50% de femmes ont été enrôlées dans sur ce fichier électoral. Donc voilà, ce plan il est déjà en action. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de réception du matériel électoral. Toutes les étapes, comme je vous l'ai dit, elles ont été franchies avec succès. Ça il faut l'entendre et il faut le voir. Après je peux comprendre en fait qu'on souhaite que ça ne puisse pas bien se passer, mais quand les choses se passent bien, on peut le reconnaître, tout simplement.
Voilà, quelques mots pour qu'on puisse terminer ce débat, Maître Gbegba.
Comme je vous l'ai dit, je reste là en train d'observer et j'attendrai, j'espère que vous nous inviterez après le premier tour des élections, pour qu'on puisse venir certainement le 28 ou le 29 décembre pour apprécier ce que nous avions dit.
Et c'est la crainte ou le scepticisme est encore sur
non, ce non, point. Non, 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 moi je ne suis pas sceptique, je suis là, je vis, et quand il y a de l'eau chaude qu'on verse sur moi, ou bien quand je ressens la chaleur, vous avez vu, je suis en train de suer. Donc je souhaite avoir au moins ces petits mouchoirs pour reçu cette chaleur. Et c'est ce que j'attends à la fin du processus, parce que le souhait de tous les Centrafricains, c'est que les choses se passent bien et qu'on ait une personnalité bien élue et que nous amorçons le développement de notre pays comme les autres. Nous n'allons pas rester constamment à nous lamenter, à nous guerroyer, non. Nous voulons que les choses changent. C'est pour cette raison que le souhait de tous les Centrafricains, c'est que les élections se passent bien.
Et à vous, Monsieur Shabazz Tairuka, quelques minutes pour qu'on puisse terminer ce débat sur le plan de sécurisation avec toutes les réponses que vous avez écoutées de la part de MINUSCA, du gouvernement et même du Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a un peu d'avancée sur ce point.
Monsieur Armando, je pense qu'on a passé près d'une heure ensemble ici et je suis quand même assez désolé de voir que ce plan justement qu'on nous a vendu ici, le gouvernement nous a rien proposé. Enfin, en tout cas, le représentant du gouvernement ne nous a pas expliqué l'architectonique de ce plan-là. N'eût été Monsieur Montero, on n'aurait pas eu d'informations sur le fonctionnement de ce plan-là. Donc, bon, voilà, moi, je reste sur ma faim. Et non seulement je reste sur ma faim, mais vraiment, je suis assez outré par les propos de mon frère Grogembo qui ose parler de marginalité, que les problèmes donc des agents ANE qui sont morts, ça c'est marginal. C'est les mêmes propos qu'avait tenu à l'époque le Premier ministre pour montrer vraiment le dédain qu'on a par rapport à la vie humaine. Moi, la vie humaine est importante et j'appuie ce que dit M. Montero quand il dit qu'effectivement on doit s'opposer aux campagnes de haine dans cette campagne-là. Et c'est clair que le chemin de l'espérance s'oppose frontalement à toutes ces campagnes de haine qui peuvent exister. Et je souhaite que vraiment on puisse sévir avec la plus grande rigueur face à ces campagnes de haine.
Monsieur Aguingo, vous voulez répondre ? Non, 30 secondes, je vous en prie.
Tout simplement, je tenais à vous remercier en fait de cette invitation qui nous a permis en fait d'expliquer en fait les tenants et les aboutissants de ce plan de sécurisation. Maintenant, le temps est assez limité pour pouvoir apporter tous les détails techniques. Je vais les lui fournir à mon débatteur, je vais les fournir pour qu'il puisse les lire, les comprendre. Maintenant, en fait, pour moi, c'est je pense que c'est important en fait qu'on puisse ne pas céder aux apôtres en fait du pire, comme je le dis, et j'inviterai tous les centrafricains en fait à aller librement choisir leur dirigeant le 27. Merci.
Voilà, c'est la fin de ce débat Patara, le souci des Centrafricains sur la question de sécurisation des élections en Centrafrique. C'est le débat de cette semaine sur Radio Ndiki Luka. Nous avions invité sur ce plateau M. Ursule Aguingo Gringbo, conseiller en communication du Premier ministre. M. Gringbo, merci d'être venu.
Je vous remercie.
M. Farita Rouka Chabaz, porte-parole du chemin de l'espérance de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdou Karim Kassoua. Merci aussi à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Monsieur Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, mission onusienne à Centrafrique, merci d'avoir participé à cette émission.
C'est nous.
Et aussi Maître Bruno Yassin-Tegbegba, avocat au barreau de Centrafrique. Vous êtes l'un des leaders de la société civile. Monsieur Begba, merci aussi à vous.
Je vous remercie, je remercie aussi Radio Ndiki Luka.
Voilà, au micro Armand de Yangendi, la technique est assurée par Serge Yadendi. J'ai bénéficié de l'appui technique de Claire Ndoumbia Samba, Rudy Leroy, Binga et de Stéphane Flemalé. Nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.